Vous écoutez, on lit pour vous.
Entrevue. Décrire sans juger la langue des jeunes. Un texte de Raphaël Derome, paru le 15 octobre 2024 dans Québec Science. Ranceur, stiff, chill. Ces mots typiques des jeunes du Québec sont maintenant décrits dans le dictionnaire du Chiller, un ouvrage qui se démarque. Jérôme Charette-Pépin est un amoureux de la langue française qui porte plusieurs chapeaux. Sous le pseudonyme Jérôme 50, cet auteur-compositeur-interprète originaire de l'ancienne Lorette a fait paraître deux albums et donne des concerts partout au Québec. Mais il est aussi étudiant en linguistique. Le nouveau trentenaire s'intéresse particulièrement au français parlé par les jeunes, dont il a abordé plusieurs facettes dans son balado « Ainsi soit-il » Radio-Canada Audio. Depuis 2018, en marge de sa maîtrise à l'Université Laval, le poète aborde les 15-35 ans dans les parcs, les fêtes, les cours d'école, afin de répertorier les mots qu'ils utilisent en registre familier. Il en a tiré le dictionnaire du Chiller, qui compte plus de 3000 entrées, 5500 sens et 7000 exemples, publiés par la toute nouvelle antenne québécoise des éditions Le Robert. L'approche est marginale, mais pas moins précieuse. De tout temps, les jeunes ont voulu affirmer leur identité et leur appartenance à un groupe. Ce sont toujours les locuteurs les plus novateurs. Mais nous, comme universitaires, nous n'avons pas accès à ce parler-là, nous a indiqué Mireille Tremblay, professeure au département de linguistique à l'Université de Montréal, qui avait invité cet électron libre à présenter son projet à un colloque organisé en 2023. Il faut parfois sortir des sentiers battus pour prendre le pouls de la rue. Comment est né ce projet? J'étudiais en enseignement du français au secondaire à Rouyn-Noranda. Et on a eu une conférence de l'historien Léandre Bergeron, auteur du Dictionnaire de la langue québécoise, VLB, éditeur 1980. À ce moment-là, j'avais 20 ans. J'ai décidé qu'un jour, j'écrirais un dictionnaire, mais je n'avais pas encore l'idée. J'ai fini par lâcher le bac en enseignement et c'est une fois de retour à Québec, dans un party, que j'ai décidé de me lancer. J'ai commencé à récolter les mots des gens autour de moi en leur demandant simplement « As-tu un mot à rajouter dans le dictionnaire du Chiller? » Vos recherches, c'était toujours dans des fêtes? Pas seulement, mais toujours en contexte décomplexé, très informel. Le milieu naturel du Chiller, ce sont des cours d'école, des parcs, des parkings de dépanneurs. Si je vois, par exemple, un rendez-vous de voiture modifiée sur un parking à Sainte-Anne-de-Beaupré, je m'arrête. Je vais parler aux gens pour récolter des mots. Il faut toujours tendre l'oreille. Chez les personnes que j'ai interrogées, il y a la fierté de partager quelque chose qui soit le plus près possible de l'usage. Donc, j'ai donné la parole au public en allant sur le terrain. Ce sont les gens qui ont construit le corpus de données, mais c'est moi qui l'ai organisé. Comment avez-vous procédé? Organiser les données, c'est très important, mais c'est très long, très difficile. Les dictionnaires collaboratifs comme le site web Urban Dictionary ne sont pas modérés. Les internautes qui proposent des définitions ne maîtrisent pas nécessairement les codes de la langue. Par exemple, la définition proposée pour « Dieu », mot créole qui signifie « beau » ou « bon », laisse croire qu'il s'agit d'un nom alors que c'est plutôt un adjectif. Le dictionnaire du Chiller suit une structure traditionnelle. Oui, à la maîtrise, j'ai été formé en partie par le Trésor de la langue française au Québec. Ce groupe de recherche affilié à l'Université Laval se spécialise dans l'étude du français québécois et publie le Dictionnaire historique du français québécois, disponible gratuitement en ligne. Lors d'un stage, ils m'ont montré leur méthode lexicographique. J'ai basé l'organisation des articles sur leur modèle. Mot d'entrée, transcription en alphabet phonétique international, catégorie grammaticale, acception, sens, exemple. D'où viennent les exemples que vous citez pour accompagner les définitions? Il y a 2000 citations de chansons, surtout du hip-hop québécois, et 450 citations tirées de la télé-réalité Occupation double. Le reste, ce sont des exemples forgés. Pour m'aider, j'ai notamment engagé Vincent Houd, un des principaux contributeurs de Fruité, une page de mème sur Internet. Depuis quand les linguistes s'intéressent-ils au parler québécois? Au Canada français, la lexicographie, le recensement et l'étude des mots d'une langue dans le but d'élaborer des lexiques ou des dictionnaires, remonte au début des années 1800. Mais le premier ouvrage à répertorier de façon objective les québécismes est le glossaire du parler français au Canada, paru en 1930. C'est l'œuvre la plus sérieuse et probablement la plus marquante pour la lexicographie québécoise en registre familier. Ensuite, il y a bien sûr le multidictionnaire de Marie-Éva de Villers, mais il est écrit dans une école de pensée qui est à l'opposé de la mienne. Que voulez-vous dire? Le multi est un grand dictionnaire de français québécois. C'est énorme. Mais c'est un ouvrage prescriptif. On doit dire ça plutôt que ça. Mon dictionnaire ne veut surtout pas prescrire. Il veut juste décrire. Et c'est la philosophie des linguistes en général. On veut exposer des faits de la langue par la recherche, sans juger. Ainsi, dans le dictionnaire du Cheller, il y a beaucoup de termes sexistes, racistes ou relatifs aux crimes de rue, à la drogue. Beaucoup d'anglicismes aussi. Vous écoutez « Entrevue d'écrire sans juger la langue des jeunes », un texte de Raphaël de Rome, paru le 15 octobre 2024 dans Québec Science. Vous travaillez selon une approche punk. Qu'est-ce que cela signifie? Tout bon Cheller ne peut pas s'investir pleinement à l'école et respecter tout le décorum universitaire. C'est trop exigeant. On a refusé de financer mes recherches parce qu'elles ne respectaient pas les codes d'éthique. Mais comment dresser un portrait juste du français québécois chez les jeunes en étant soumis à des règles extrêmement rigides qui demandent des autorisations parentales, des protocoles prévus d'avance? On perd tout le côté spontané. Les jeunes ne sont pas intéressés à signer des papiers. C'est donc un livre réalisé à compte d'auteur. Exact. J'ai engagé une équipe de linguistes, notamment Gabriel Martin et Caroline Aymond, qui ont travaillé entre autres sur le dictionnaire Usito. Tout cet univers de rédaction, de recherche, est indépendant de l'université. Donc en marge des structures en place, ou même contre ces structures? Surtout pas contre. Les linguistes sont généralement bienveillants à l'égard du français québécois, mais c'est méconnu du grand public. Au Québec, on a tendance à associer la langue française à un conservatisme linguistique austère, à un balisage grammatical et orthographique sévère et trop rigoureux. Ça crée un climat d'insécurité linguistique. Impression que la façon dont on parle n'est pas légitime ou valorisée par la société. Cela a des répercussions très néfastes pour le peuple québécois. Il y a une phobie des mots empruntés à une langue étrangère. Pourtant, aucune étude n'a démontré que l'arrivée d'un mot emprunté fait disparaître son équivalent français. Prenons le verbe « spoiler » ou « spoil » qui a été francisé par « divulgâcher ». Dans l'usage, les deux peuvent coexister. L'Office québécois de la langue française propose des versions francisées, mais après, c'est au peuple de décider s'il les emploie ou pas. Et parfois, ça fonctionne très bien. Courriel, par exemple. Nombreux sont ceux et celles qui craignent que des emprunts du genre menacent ou dénaturent le français. Si la langue française est menacée, c'est surtout pour des raisons politiques ou démographiques. Le français, pour moi, n'est vraiment pas menacé au Québec. Sauf peut-être à Montréal, où il y a de plus en plus de locuteurs non francophones. On peut voir ça comme une menace, mais de manière générale, les Québécois parlent français. Ça fait des centaines d'années qu'on pense que le français va mourir au Québec et il est encore là. Quel mot retrouve-t-on dans le dictionnaire du Chiller? Pour être inclus dans le dictionnaire du Chiller, un mot doit avoir été relevé à plus d'une reprise auprès des jeunes francophones de 15 à 35 ans et avoir été jugé caractéristique du sociolecte des Chillers, c'est-à-dire la variété de français québécois propre à ce groupe social. On y trouve notamment les mots employés uniquement par les Chillers, par exemple « stiff »,« fille ». Ceux qui décrivent une réalité incontournable de leur univers, CBD, le cannabidiol, présent dans le cannabis. Les mots déjà attestés dans les dictionnaires du français québécois, mais fréquemment utilisés par les Chillers. Moté, personne plutôt stupide dont l'allure et le comportement manquent de raffinement. Les mots utilisés par les Chillers dans un sens particulier. Plug, pour désigner une personne qui revend de la drogue de manière illicite. Des emprunts au créole, à l'anglais et à d'autres variétés de français comme l'argot. Daron, père. Les jeunes ont-ils cessé de conjuguer? On s'étonne parfois d'entendre des jeunes dire « Hier, on a chill au parc » au lieu de « Hier, on a chillé au parc ». Pour sa maîtrise, Jérôme Charette-Pépin s'est penché sur cette question de morphologie des verbes empruntés à l'anglais. Ses recherches dans la littérature du rap québécois francophone montrent que cette innovation proviendrait de la communauté haïtienne de Montréal. En créole haïtien, on indique le ton des verbes à l'aide de particules, des mots courts qui précèdent le verbe. La terminaison du verbe ne change pas. À la fin des années 1990, beaucoup d'artistes de rap très influents ont utilisé dans leurs chansons des verbes anglais sans terminaison, donc selon une morphologie du créole haïtien. C'est le cas de « Sans pression ».« Tu veux te flex » dans « Territoire hostile » 1999 et de « Casser LMNOP » ceux qui ont flash avec un bang-bang dans « Tailleul, vis ta vie et reste en vie » 1996. Ce phénomène a probablement plus de 30 ans, estime Jérôme Charette-Pépin, mais sa diffusion pan-québécoise a commencé plus tard, au cours des années 2010. Mais attention, quand on dit que les jeunes ne conjuguent plus, ce n'est pas vrai, note Jérôme Charette-Pépin. À l'imparfait ou au conditionnel, on en est obligé d'intégrer le verbe, c'est-à-dire de les conjuguer. On ne peut pas dire « si je buvais une bière de plus ». « Je passe out », c'est « je passerai out », sinon il n'y aura pas d'intercompréhension. Cette notion est fondamentale. Si on ne se comprend pas, ça ne sert à rien de parler. C'était, entrevue, d'écrire sans juger la langue des jeunes, un texte de Raphaël de Rome, paru le 15 octobre 2024 dans Québec Science.
Les nuisances sonores. Dernière arme de la Corée du Nord, un texte de Claire Lee de l'agence France Presse paru le 21 novembre 2024 dans Le Devoir. Coup de feu, rire sinistre, hurlements fantomatiques. Toutes les nuits, l'île sud-coréenne de Gangwa est bombardée de bruit à glacer le sang par la Corée du Nord, distante de 2 kilomètres, une étrange campagne de guerre psychologique qui met les habitants sur les nerfs. Séparée de la Corée du Nord par l'estuaire du fleuve Han, au nord-ouest de Séoul, Gangwa était jusqu'ici surtout réputée pour ses paysages de montagnes, de rizières et de petits villages. D'habitude, on profitait des sons paisibles de la nature, du chant des insectes et des oiseaux, raconte à l'agence France-Presse AFP Kim Young-suk, 59 ans, maintenant tout ce qu'on entend, c'est ce bruit. La Corée du Nord a commencé à émettre ses sons en riposte à la reprise, en juillet 2024, de la diffusion par haut-parleur de K-pop et d'informations internationales par l'armée sud-coréenne le long de la frontière. Séoul avait pris cette mesure en représailles à l'envoi par la Corée du Nord de milliers de ballons chargés d'immondices vers le sud. Han Ashio-Chol, 66 ans, se souvient des émissions de propagande nord-coréenne d'antan qui vilipendaient les dirigeants du Sud et encensaient le régime de Pyongyang. Alors qu'aujourd'hui, ce sont des hurlements de loups, des bruits de fantômes, dit-il. C'est désagréable, ça me donne des frissons, c'est vraiment bizarre. Tourmenter les gens. Pour Park Eung-yeol, conseiller municipal de Ganghwa, ce n'est pas de la simple propagande du régime, cela vise vraiment à tourmenter les gens. Une équipe de l'AFP s'est rendue à Ganghwa durant la nuit et a entendu ces bruits effroyables diffusés à tue-tête. L'inquiétant mélange de râles de mourants, de crépitements d'armes automatiques, d'explosions, de rires et hurlements obsédants et de musique sinistre commence à 23 heures. La privation de sommeil et le bruit assourdissant sont des formes de torture bien connues. Selon les experts, une exposition à plus de 60 décibels la nuit augmente le risque de troubles du sommeil. À Ganghwa, l'AFP a mesuré des bruits nord-coréens montant jusqu'à 80 décibels. « Je me retrouve à prendre des médicaments contre les maux de tête presque tout le temps », raconte Han Mi-hee, 37 ans, qui se plaint également d'anxiété, de douleurs oculaires, de tremblements du visage et de somnolence. « Nos enfants ne peuvent pas dormir non plus. Ils développent des aphtes et ils s'endorment à l'école ». Désespérée, Mme Han est même allée s'agenouiller en larmes devant les députés de l'Assemblée nationale à Séoul en octobre 2024 pour les supplier de trouver une solution. Plutôt un tremblement de terre. Je préférerais une inondation, un incendie ou même un tremblement de terre, car pour ces événements, on sait toujours qu'on finira par s'en remettre, affirme Mme Han. Là, on ne sait pas si ça va continuer jusqu'à ce que la personne qui donne les ordres en Corée du Nord meure ou si cela peut s'arrêter à tout moment. On n'en sait tout simplement rien. Les politiciens de Séoul devraient venir ici et essayer de vivre avec ce bruit pendant juste 10 jours. Je doute qu'ils puissent le supporter plus d'une seule journée, s'énerve Choi Ashyong-chan, 60 ans, un autre habitant de Ganghwa. Selon des ingénieurs du son consultés par l'AFP, le bruit semble être un mélange rudimentaire de clips provenant d'une bibliothèque de sons comme celle utilisée par les stations de radio et les chaînes de télévision. On dirait que ça sort tout droit d'un film d'horreur sud-coréen des années 1970 et 1980, estime l'un de ses ingénieurs, Ashwang Kwon-hik. Certains émettent l'hypothèse qu'en diffusant ces bruits, la Corée du Nord cherche en fait à noyer la propagande sonore provenant du Sud, craignant qu'elle n'incite ses troupes à la défection. En août 2024, juste après la reprise de la propagande par Séoul, un soldat nord-coréen avait réussi à passer au Sud à pied. Certains experts ont suggéré que la musique et les messages du Sud l'avaient encouragé à tenter la dangereuse traversée de la zone démilitarisée, infestée de mines et d'autres pièges. Mais pour Lee Soo-young, professeur de production audio à l'Institut Dong-ha pour les médias et les arts, cette hypothèse ne tient pas debout, les haut-parleurs nord-coréens étant tournés vers le Sud. Si on veut masquer un son dirigé vers le nord, alors le son utilisé pour le couvrir doit aussi être dirigé vers le nord, explique-t-il. Compte tenu de la structure du son, il semble qu'il s'agisse moins de masquer un bruit que d'infliger des souffrances aux habitants du sud. C'était Les nuisances sonores, dernière arme de la Corée du Nord, un texte de Claire Lee de l'agence France Presse, paru le 21 novembre 2024 dans Le Devoir.
entrevue avec le docteur Pierre Côté vers des traitements injectables de longue durée pour prévenir le VIH. Un entretien dirigé par André-Constantin Passiour, paru le 25 novembre 2024 dans le magazine Fugue. Lors de la 25e conférence internationale sur le sida de l'IAS à Munich, en Allemagne, l'été dernier, les attentes étaient élevées concernant les traitements antirétroviraux injectables utilisés pour prévenir la transmission du VIH. On y présentait les résultats d'études sur l'efficacité du lenacapavir, Sonleca, dans un contexte de prophylaxie pré-exposition au VIH, PrEP. Le lenacapavir étant un médicament injectable administré deux fois par an, efficace contre les virus résistants chez les personnes VIH+ ayant échoué aux traitements antérieurs. On attendait également les résultats des données sur cabotegravir, apritude, administré pour sa part chaque deux mois dans le même contexte de PrEP, chez les femmes cisgenres, pour qui la PrEP traditionnelle n'avait pas démontré une bonne efficacité. Ces deux médicaments injectables à effet prolongé étaient comparés au Truvada, la PrEP traditionnelle, utilisée présentement comme traitement standard en comprimé pris tous les jours en continu ou à la demande pour la prophylaxie pré-exposition. Menée par la Dr. Linda Gale Becker, directrice de la Desmond Tutu HIV Foundation à l'Université du Cap et ex-présidente de la Société internationale du sida, l'étude présentée à Munich sur le lenacapavir ouvre de nouvelles perspectives. Le lenacapavir a démontré une efficacité de 100% chez les femmes cisgenres et les jeunes filles à risque d'infection. Les résultats présentés ont été accueillis très positivement. On a même eu droit à une ovation debout à la fin de la présentation. Je n'ai pas vu ça souvent. Je n'ai pas vu ça depuis que je pratique, se réjouit le docteur Pierre Côté, médecin à la clinique de médecine urbaine Quartier Latin. Notons qu'actuellement, le Cabenuva, combinant le cabotegravir et le ripivirine, est prescrit et remboursé par l'assurance médicaments, privé et public. Les traitements injectables à longue action seront certainement de plus en plus utilisés dans le futur, que ce soit pour traiter ou prévenir le VIH, explique le docteur Pierre Côté. La majorité des patients qui ont utilisé un traitement injectable sont très satisfaits et le tolèrent très bien. Ils craignent en général moins la stigmatisation puisqu'il ne s'agit pas de pilules à prendre quotidiennement. Ils évitent ainsi d'avoir à répondre pour justifier pourquoi ils prennent ces médicaments sur une base quotidienne. En PrEP, une injection tous les deux mois de cabotegravir, commercialisé sous le nom d'apritude, ou deux fois par an de lenacapavir, qui sera commercialisé sous le nom de Sonleca, est plus pratique que la PrEP prise de manière quotidienne. Cela réduit le nombre de pilules qu'ils doivent prendre et la personne a moins à se soucier ou craindre d'oublier des doses. Cette meilleure adhérence aux injectables à longue durée d'action explique la supériorité du lenacapavir et du cabotegravir dans les études cliniques présentées. Plusieurs personnes vivant avec le VIH sont diagnostiquées tardivement et ne bénéficient donc pas d'un traitement débuté en temps opportun. Plus des trois quarts des personnes nouvellement diagnostiquées en 2022 n'avaient jamais eu de test de dépistage du VIH auparavant. Près de la moitié, 48,8% d'entre elles, ont eu un diagnostic tardif. Près d'une personne sur quatre a été diagnostiquée à un stade avancé de l'infection. Nous n'avons pas fini d'entendre parler des médicaments à longue durée d'action. Des nouvelles formulations de médicaments pris oralement sont étudiées et pourraient voir le jour. Pris une fois par semaine, par mois, aux deux, quatre ou six mois, voire peut-être éventuellement une fois par an. Des études sont également en cours pour démontrer l'efficacité des médicaments tels que le lenacapavir et le cabotegravir chez différentes populations plus vulnérables, comme les usagers de drogues injectables, pour qui les traitements à longue durée d'action seraient le plus bénéfique, car elle répondrait à la cause principale d'échec avec cette clientèle. Ces populations plus vulnérables ont plus souvent des difficultés à adhérer à la PrEP telle qu'elle est actuellement utilisée au quotidien. On peut se poser la question à savoir qui bénéficiera réellement de la PrEP injectable et quand, comme ils ne sont pas encore couverts par le régime public d'assurance médicaments et bien des assureurs privés. Le coût d'une injection d'apretude tourne autour de 1 $ par injection, soit un peu plus de 6 000 $ par an. Bien que le coût n'est pas encore connu, je parierais sur des coûts annuels comparables pour deux injections de Sonleca par année, continue le docteur Pierre Côté. À l'heure actuelle, on parle de 40 000 $ par an pour le traitement de Sonleca aux États-Unis. Pas sûr que le régime médicament de la RAMQ le rembourse de sitôt si les coûts restent si élevés. Au départ, seules les personnes avec une bonne assurance privée pourront y avoir accès. Le gouvernement et les gens de l'industrie devront certainement négocier et faire des compromis pour donner accès à ces traitements qui vont aider tous, y compris les personnes les plus vulnérables et les plus à risque. J'ai une autre préoccupation. Depuis l'utilisation de la PrEP, on assiste à une hausse croissante des ITSS, infections transmissibles par le sexe et le sang, gonorrhée, chlamydia, syphilis, entre autres. Présentement, on voit en suivi les patients sous PrEP à tous les 3 mois environ. Ceci permet de dépister précocement les ITSS et les traiter rapidement pour éviter que les gens se contaminent davantage sans le savoir parce qu'ils ne présentent pas de symptômes. Si les visites se font uniquement 2 fois par année, risque-t-on une recrudescence éventuelle de ces ITSS? Se questionne le docteur Pierre Côté. Il faudra certainement s'adapter. Bref, ce ne sont pas des vaccins ni des cures, mais ces traitements injectables représentent une avancée scientifique significative pour les patients et pour la prévention. C'était « Entrevue avec le docteur Pierre Côté » vers des traitements injectables de longue durée pour prévenir le VIH. Un entretien dirigé par André-Constantin Passiour, paru le 25 novembre 2024 dans le magazine Fugue.